Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On fait ça avec amour et on fait ça, on l'espère, avec un petit peu d'humour aussi pour vous faire passer un bon moment, ce qui est un atout totalement vertueux puisqu'il vous permet de continuer à écouter l'émission puisque vous passez un bon moment et que par là même, sans même vous en rendre compte, vous accumulez, vous intégrez toutes les infos tech importantes. Donc on allie l'utile à l'agréable, ou plutôt l'agréable à l'utile. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 406, nous sommes en juin 2021 et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Cédric, non pas Bonnet, mais Deluca. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais ça, tu vois, tu m'inspires,
c'est pas grave.
Cédric.
Je t'inspire.
Tu vas bien, t'es en forme ?
Ouais, ça va. Ouais, très bien, tout va bien.
Très bien. On a aussi Jérôme Marin qui, lui, malheureusement, ne bénéficie pas de l'accentuation de son nom de ma part. Comment ça va, Jérôme ?
Tu devrais, parce que mes grands-parents sont italiens, donc Marine.
Ah, Jérôme, ah ben voilà. Marine.
Voilà,
bonjour. Jérôme, Marine.
Salut Jérôme, merci à toi de te joindre à nous. On a des sujets fort intéressants aujourd'hui. On a Amazon qui achète MGM. On a un festival de pourriture du net dont vous allez me donner des nouvelles. On a aussi Satya Nadella qui donne des indices sur Windows Next Generation et plein d'autres petites infos hyper intéressantes. Mais avant de se lancer, évidemment, je vais prendre un tout petit moment pour remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, sans lesquels cette émission n'existerait pas. Je voudrais remercier donc spécifiquement David Da Silva, Pierre-Guillaume Vildari, Nathan Leray, Lucas Tumia, Hansa Corp, Manu à main nue, dont j'aimerais noter que si c'est effectivement son nom de famille, j'imagine que ses aïeux étaient extrêmement forts à la bataille, au combat, parce que pour avoir un nom comme ça, je pense que ça voulait dire ça. Paiseb et aussi le producteur de cet épisode, Raph, qu'on remercie tout particulièrement, comme tous les mois. Donc, on va se lancer dans les infothèques importantes à retenir cette semaine. Et on commence avec la plus grosse info, je pense, qui est le rachat d'Amazon, ou plutôt le rachat de MGM par Amazon, le studio de cinéma, qui va leur coûter la modique somme de 8,45 milliards de dollars et qui est leur plus gros rachat, comme le note CNBC, depuis le rachat de Whole Foods, qui leur avait coûté genre 13 milliards. Donc c'est quand même une grosse, grosse somme. Et je crois qu'on aurait tendance à se dire que c'est un rachat qui a pour but de rentrer en concurrence avec les Netflix et Disney de ce monde, mais j'ai lu une analyse extrêmement intéressante qui semble indiquer qu'en réalité, c'est une analyse de Peter Kafka chez Vox, chez Recode, qui semble indiquer pour lui en tout cas que, en fait, le but n'est pas vraiment de se battre directement avec Netflix et Disney et les autres géants du streaming, mais plutôt d'être encore une fois un véhicule pour vous pousser à rester abonné à Amazon Prime, vous donner juste suffisamment pour que vous vous disiez, bon, bah, c'est pas la peine de se désabonner parce qu'il y a les James Bond qui vont arriver sur Amazon Prime Video. Et en plus du fait que sur Amazon Prime Video, ils vous vendent aussi possiblement d'autres trucs, d'autres fournisseurs de services et d'accès, parce que vous savez, sur Amazon Prime Video, vous pouvez acheter des choses en plus de ce qui est disponible directement avec votre abonnement Prime. Et bien évidemment, ça vous encourage à rester abonné Prime et à rester chez Amazon. Alors, ça me semble quand même gros pour simplement mettre en avant Amazon Prime, un rachat de cette ampleur, d'autant plus que Amazon, avec Prime, ils investissent beaucoup dans d'autres choses. On sait qu'ils ont, par exemple, une série de Lord of the Rings qui est en préparation, qui leur coûte des millions et des millions, et il y a d'autres choses par ailleurs. Mais je suis curieux de savoir quel est votre avis. Peut-être que je vais me tourner vers Jérôme d'abord, qui, c'est pas que, j'allais dire, qui est un journaliste sérieux. C'est pas que Cédric n'est pas un journaliste sérieux, mais...
Non, mais moi, je suis là pour la galéjade, Patrick. Donc, je dois vous faire des vannes, moi.
Je demande à Jérôme d'abord, qu'est-ce que t'en penses, le rachat de MD,
moi,
de MGM?
Je fais exactement la même analyse, en fait. Ouais. Faut bien voir Prime, par exemple, en France, c'est 50€ par an. Netflix, on est sur des prix beaucoup plus élevés. Donc l'idée, c'est pas d'avoir Prime pour battre Netflix, pour battre Disney. Si on part que sur le streaming, et ils vont pas être en compétition avec ces gros acteurs. L'idée, vraiment, c'est j'offre des films, des séries, du football américain, Roland Garros aujourd'hui. Pour soit vous pousser à vous abonner, parce qu'en fait l'idée derrière ça, c'est que les acheteurs occasionnels qui achètent une ou deux fois par an sur Amazon s'abonnent pas à Prime. Si on leur donne des contenus, ils vont s'abonner à Prime, et Amazon sait que quand on s'abonne à Prime, au lieu d'acheter une à deux fois par an, on achète une à deux fois par mois. Donc tout ce qu'ils investissent dans les contenus, ils vont le récupérer ailleurs, par des abonnements, mais surtout par des achats que les abonnés Prime vont faire. Donc en fait ce qu'il faut voir, c'est que Amazon avait un problème. En fait, Amazon avait beaucoup investi dans les contenus. On parle de 11 milliards cette année de dollars. C'est un peu moins que Netflix, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Ils avaient un vrai problème, c'est qu'ils ont créé des films et des séries qui ont bien marché sur un plan critique. Manchester by the Sea ou de la série Transparent, par exemple. Mais il n'y a pas eu de gros cartons d'audience, en fait. Et si je te demande aujourd'hui de me citer une série d'Amazon, je pense que tu... pas forcément capable, la majorité n'est pas capable de citer une série d'Amazon.
Ou celles auxquelles on pense, je crois que c'est des séries qui sont en fait en licence en Europe, alors qu'elles sont en fait des séries produites par d'autres aux États-Unis, comme The Expanse ou Handmaid's Tale, ce genre de choses. Ou The Boys, oui, c'est pas Amazon qui a produit, si je ne m'abuse. Peut-être The Boys.
Je sais pas, je
peut-être The Boys, peut-être The Boys. Mais c'est un truc qui est populaire chez nous, mais c'est pas un gros méga carton, quoi.
Et là, c'est vrai que ça va leur donner... Things, ou un House of Cards, ou un Lupin même aujourd'hui. Et donc, ils voulaient avoir des contenus. Donc, tu as parlé de Lord of the Rings, enfin, le Seigneur des Anneaux, ils vont dépenser 400 millions de dollars pour un an, pour une saison. Ils veulent avoir des contenus forts qui poussent à s'abonner, qui poussent à rester abonné. Donc, James Bond, donc il y a d'autres séries, il y a Rocky, par exemple, ils ont la franchise de Rocky MGM. Donc, ils vont pouvoir créer des contenus sur ces franchises et pour essayer d'exister un peu plus, en fait, au niveau du grand public. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas créé des séries, ils ont créé des très bonnes séries qui ont été primées, qui ont eu reçu des récompenses, mais qui ne sont pas très grand public et qui n'ont pas marqué le grand public. Et aujourd'hui, quand on pense à Prime, on ne pense pas à la vidéo, on pense à la livraison gratuite. Et ouais. Donc, ils essayent un peu de retourner ça, avoir une offre un peu complète pour pousser de plus en plus de monde à s'abonner à Prime.
Oui, on me confirme sur Twitch, que je salue d'ailleurs au passage, que c'est Amazon, The Boys, mais c'est vrai que c'est une série qui est un petit peu particulière, un petit peu comme moi je pourrais vous parler de Invincible, qui est une super série animée, mais les deux, c'est de la déconstruction du mythe classique du super-héros. C'est cool, hein, c'est des super bonnes séries, et moi je les aime beaucoup, et dans nos milieux peut-être qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas James Bond, quoi, c'est pas des trucs dont tout le monde parle partout. Et même si James Bond, c'est un peu particulier, parce que il y a la famille, je sais plus comment il s'appelle, Brocoli, je crois, peut-être que je dis une bêtise, c'est eux, hein, qui gèrent les droits de... Je ne sais plus si je me souviens effectivement de Brocoli ou si c'était un autre légume et que je confonds, et du coup, ça va être très, très drôle, mais je crois que c'est Brocoli ou Asperge, ou je ne sais plus. Et ils ont un droit de regard sur l'IP James Bond, mais ça veut quand même dire qu'ils peuvent travailler avec. Et ce que tu dis est très vrai, Jérôme. Ils ont, en fait, Amazon Prime Video, qui est... Bon, ils vendent aussi des choses sur l'interface Prime, mais ça représente une partie de l'abonnement Amazon Prime qui est lui-même moins cher de moitié, voire plus, que les abonnements des autres services équivalents. Donc effectivement, ça ne peut pas être directement la même stratégie, mais il est intéressant de voir qu'ils donnent des trucs. Parce que maintenant, James Bond, on se dit, ouais, bon, c'est pas non plus hyper intéressant, mais quand il y a le dernier... film qui va arriver, qui a été repoussé X fois, No Time to Die, et qu'ils vont, en plus de ça, potentiellement développer des univers parallèles avec, enfin, ou des séries parallèles, on peut imaginer, des trucs qui se déroulent dans l'univers de James Bond avec d'autres protagonistes, etc. Ça peut donner des raisons de s'abonner à Prime, même s'ils n'ont pas besoin d'avoir l'énorme série monstrueuse dont tout le monde parle. Donc bon, je pense qu'effectivement, il y a du vrai dans cette analyse. Cédric, quelque chose à ajouter là-dessus?
Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Pour moi, il y a vraiment l'enrichissement du catalogue. Et là, c'est des licences faciles. On a acheté du contenu. OK, ça coûtait cher, mais on a acheté du contenu effectivement grand public. On enrichit l'offre actuelle. Comme disait Jérôme, finalement, l'objectif premier, c'est de rendre l'offre attractive. Et en plus, au passage, c'est comme quand on achète une entreprise pour ses brevets. Là, on l'a acheté pour ses licences, ses franchises, etc. Donc, on se retrouve avec des beaux noms hein, chez MGM et on peut les dériver à l'infini. Autre chose,
c'est
la MGM, c'est aussi des moyens de production. Hein. C'est aussi un investissement sur des moyens de production. Alors, ils en ont Amazon, hein, ils n'ont pas de souci avec ça, mais c'est des moyens de production, c'est du savoir-faire. C'est des choses qui ont de la valeur en fait, hein. C'est bête, mais le savoir-faire sur la production d'un film, sur ce genre de choses, c'est un métier. C'est pas le métier de base d'Amazon, c'est un métier. Et je pense que c'est un excellent mouvement aussi de la part d'Amazon de racheter MGM pour justement faire rentrer ces compétences, ces choses-là chez eux en fait. Sur la production de séries, sur de la production différente, avec des budgets complètement différents. Et moi je trouve que c'est vraiment un excellent move. Et ça donne envie de rester abonné, très clairement. Oui. Enfin, je sais pas si on va réussir à faire en sorte que les gens s'abonnent à Prime parce que y a ces contenus-là. Ça, j'ai un doute encore. Je pense que, comme Jérôme, qu'on est plutôt Prime, c'est la livraison rapide et gratuite. Mais peut-être que justement, on va commencer à s'en approcher. C'est-à-dire que les gens qui étaient hésitants, en se disant je commande très très peu chez Amazon, peut-être qu'ils vont se dire finalement le Prime ça devient intéressant, ne serait-ce que par la musique, ne serait-ce que par le contenu maintenant audiovisuel qu'il propose, parce que Prime a quand même gardé cette image de c'est du fond de catalogue, comme c'est gratuit entre guillemets puisque d'abord on paye pour la livraison, comme c'est gratuit c'est du fond de catalogue et c'est pas bon, ce qui est faux hein. Dans les faits il y a pas que du fond de catalogue et du mauvais. Ouais. Je pense que ça va permettre en fait ils achètent aussi de l'image en fait avec ça.
C'est peut-être un petit peu de ça, effectivement. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié à cette question d'image, et c'est sur ça qu'on va conclure. Il y a le fait quand même que c'est, je crois, l'une des rares fois où on a cette prophétie qui se réalise de la tech est en train de devenir tellement grande qu'elle est en train de racheter tout le monde, y compris
toute l'ancienne industrie, en fait.
C'est ça, exactement. Des industries, des géants de l'industrie qu'on considérait comme les grosses industries de l'entertainment. Alors, la musique, on n'en parle même plus parce que c'est trois clopinettes hein, pour ces géants qui pourraient les racheter immédiatement s'ils voulaient. Mais le cinéma, c'est quand même une grosse étape. Et il y a quoi 4, 5 gros studios. Alors, MGM, c'est peut-être pas le plus gros, mais c'est quand même l'un des gros. Et ils se font racheter
plus
par un géant.
Plus mythique que gros, MGM, aujourd'hui. Hein.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est plus mythique que gros. Mais ça fait partie de ces boîtes où on se dit c'est presque too big to fail, tu vois. On se dit c'est le genre de truc qui se feront jamais racheter par... des Google, des Apple, des Amazon.
Alors qu'ils en ont largement les moyens.
Alors qu'en fait, alors qu'ils en ont largement les moyens. Et finalement, on se rend compte que c'est en train d'arriver et que c'est à la fin, on aura en producteur de cinéma Amazon, Netflix, Apple.
Non, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
Oui, mais je sais. Non, mais je veux dire, j'imagine dans quelques années. Ce que ça donnera. Parce que là, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, est-ce que ces films produits par Amazon MGM seront au cinéma ou pas? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent derrière tout ça. Donc, je trouve que, honnêtement, on vit une époque où. Il y a quelques années, on nous aurait dit ça, on aurait dit, mais c'est une dystopie, en fait.
Ouais.
C'est vraiment ça, tu vois.
C'est un élément important, t'as raison. Si on le décrit comme ça, on va dire au début des années 2000, où on décrit, il y a 4 ou 5 sociétés qui ont la main mise et le pouvoir de vie ou de mort sur la musique, le cinéma, le développement,
le jeu vidéo, enfin tout.
Ouais. Bon,
le prochain à tomber, juste pour finir, mais
vas-y.
Warner Media qui avait été racheté par AT&T, qui est l'opérateur téléphonique américain, qui est le prochain à tomber, on le sait, ils ont fusionné avec Discovery, qui est le groupe Eurosport notamment en Europe. C'est un gros groupe, hein, où là on est plus dans des 30-40 milliards de dollars, mais il y a des rumeurs sur un possible rapprochement avec Apple par exemple. Apple, on le sait, ils essaient de pousser leur contenu, pour l'instant Apple TV ça marche pas si bien que ça a priori, donc c'est aussi l'une des prochaines étapes à suivre. Après, au-delà, Disney c'est trop gros pour l'instant, NBC Universal ça semble gros, mais pourquoi pas, après on verra, tout dépend en fait de la transition, si ces studios arrivent à s'adapter. Pour l'instant, ils montrent qu'ils arrivent à s'adapter au monde moderne, au monde numérique, mais peut-être qu'un jour, ils iront voir un Apple ou un Amazon ou un Netflix pour se faire acheter.
Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, AT&T est en train de se séparer de Warner Brothers, et donc, pour les sociétés qui pourraient faire ce rachat, Warner Brothers Discovery, il n'y en a pas des centaines non plus, donc... Intéressant. Bon, on va continuer avec cette petite collection de sujets que j'ai intitulée amoureusement le Festival des pourritures. Il y a quand même, au bout du compte, une vraie discussion à avoir, mais je les ai regroupés parce que dans ma veille où je parcours quand même des dizaines et des centaines d'articles, j'ai trouvé ce thème qui était assez cohérent. C'est donc des choses qui se passent dans le monde de la tech qui sont un petit peu surprenantes par l'aspect pourri, tu dis « Ah, mais vraiment, ils abusent. » Donc, je vais vous lister ces trois petits sujets rapides sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de commentaires à faire. Et puis après, le sujet sur Facebook et la pandémie. Donc, le premier, c'est en Inde. Bah, ça a aussi à voir avec la pandémie. Ils ont établi un système pour des réservations pour la vaccination de la population. C'est un système qui s'appelle Cowin, et qui a des API sur lesquelles peuvent venir se brancher différentes applications. Et l'idée est de permettre à la population qui a beaucoup de problématiques diverses, dont l'illettrisme, de se connecter et de réserver une plage horaire pour se faire vacciner. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des scammers, des scalpers qui se sont mis à développer des bots pour réserver en masse des plages de vaccination et les revendre ensuite aux personnes normales. Alors ça a commencé parce que le système était surchargé et donc certains développeurs ont voulu réserver plusieurs spots pour leur famille. Mais pour leur famille ou leurs amis, et puis ça s'est très vite développé beaucoup plus loin, et donc maintenant il y a des gens qui proposent pour une somme qui va de quelques dizaines, qui est d'environ quelques dizaines d'euros, de vous aider à trouver un spot de réservé. Et évidemment, ce sont des gens qui ont développé des choses qui bloquent des centaines, voire des milliers de spots. Donc ça, c'est la première chose. Disons que on connaît toujours le fait qu'il y ait des scripts et des bots qui fassent des réservations en chaîne, mais c'est généralement quand il y a un nouveau produit qui est mis en vente, ce genre de choses. Quand il s'agit de vaccination contre la Covid, c'est un petit peu plus... J'ai pas envie de dire surprenant, mais peut-être un petit peu...
Non, mais éthiquement discutable.
Voilà, éthiquement discutable.
Mais je vais te dire un truc, juste un truc sur ce point-là quand même. Si en France, la réservation des rendez-vous était anonyme comme en Inde... Le Bon Coin serait rempli de créneaux de vaccination à vendre.
C'est possible, oui. Oui, je ne pointe pas évidemment l'Inde du doigt. Ce que je pointe, c'est le comportement qui, il est vrai, aurait pu se retrouver.
Mais c'est un comportement humain, c'est ce que je veux dire. Ouais, malheureusement, tu auras toujours des gens pour profiter d'une crise, quelle qu'elle soit. Il n'y a qu'à voir, pour comparer, la pénurie de cartes graphiques, le nombre de gens qui ont créé des bots pour que dès qu'une carte graphique est disponible, ils l'achètent sur n'importe quel site pour les revendre ensuite extrêmement cher. Enfin, il y a...
Non, mais ça, on le connaît toujours. Bien sûr. Oui, ce qui me marque le plus, c'est que c'est la vaccination. Toi, clairement,
tu n'as encore foi en l'humanité, mais je pense que...
Disons que c'est choquant, mais pas surprenant.
Parce que fatalement... les gens n'ont pas envie de mourir, donc en plus, tu vois, c'est plus important qu'une carte graphique. Donc pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus marchandable qu'une carte graphique.
Ouais, on est d'accord. On a aussi d'autres sujets. Je note le titre parce que choquant mais pas surprenant, ça me paraît pas mal comme titre pour l'émission, potentiellement, c'est l'un des candidats. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est sur TikTok, et oui, on parle de TikTok à tous les épisodes, il y a un truc qui est en train de se passer, toujours dans cette catégorie la foi dans l'humanité. Il y a des comptes qui sont en train d'utiliser des vidéos des vidéos de grosses influenceuses, généralement c'est des influenceuses, qui parlent de moments traumatiques de leur vie, soit des contenus qu'elles ne voulaient pas voir rendus publics, qui ont été rendus publics, et elles en parlent face caméra pour expliquer la situation. Enfin, on a tous vu ce genre de vidéos de youtubeurs, youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses qui ont des moments hyper émouvants où elles font dans larmes, etc. Et il y a des comptes sur TikTok qui utilisent ces vidéos qui ont été extraites de leur compte d'origine, qui les mettent en live, qui est sans doute plus difficile à surveiller et à bannir, et qui donc recrutent des vues, parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est effectivement quelque chose qui a été pris ailleurs. Ils recrutent des vues et vendent ensuite du merchandising sur leur compte parce qu'ils ont accumulé des vues et des abonnements. C'est là aussi une pratique que je trouve, comment dire, exploitation de la misère qui est tout à fait,
je ne vais pas dire... Qu'est-ce que tu veux dire ?
Oui.
Choquante, mais pas surprenante.
Ouais. Choquante, mais clairement, on peut le dire.
Mais pas surprenante, on est d'accord.
Toutes les news qui vont suivre, ça va être choquant, mais pas surprenant.
Ça va être un peu ça, oui, quand on parle de ces sujets. Eh bien, écoutez, dans la catégorie choquant, mais pas surprenant, on a, je parle d'exploitation de la misère, vous vous doutez bien que je ne vais pas uniquement vous mettre devant les, enfin, entre les oreilles des anonymes développeurs en Inde ou simili-influenceurs sur TikTok, mais on va parler un petit peu d'Amazon aussi. Ils ont fait un truc qui est, dites-le avec moi, 3, 2, 1... choquant, mais pas surprenant. Pas surprenant. Merci à tous. Ça s'appelle les Zen Booths. Alors, c'est les cabines Zen qu'ils ont installées dans leurs entrepôts, qui sont en fait des sortes de... On pourrait dire de taille de cabine téléphonique, mais j'ai un petit peu envie de dire, pour refléter la nature de la chose, vous savez, les toilettes de chantier. C'est un petit peu ça. C'est opaque et à l'intérieur, en fait, il y a un ordinateur avec une souris et un clavier et une chaise. Donc, c'est un petit peu... Dans l'article, ils ont... Je ne sais plus. À un moment, ils disent c'est la taille d'un cercueil. C'est un petit peu ça. Et il y a une vidéo qui explique l'intention de la chose, qui est de fournir aux employés la possibilité de s'isoler un moment et de regarder des vidéos zen et de mindfulness et de, vous savez, de présence. Et donc, en fait, c'est cette petite cabine avec trois plantes et un ordinateur sur lequel il y a une liste de vidéos qui s'affiche et on clique et on voit en fait une vidéo qui vous dit de bien respirer. Quand on connaît les problématiques diverses des conditions, c'est aux États-Unis uniquement, hein, à ce stade, quand on connaît les conditions de travail chez Amazon, dans les entrepôts en particulier, avec des polémiques à répétition sur le fait que les employés n'ont pas assez de temps de pause pour aller aux toilettes et qu'ils sont donc obligés d'uriner dans des bouteilles d'eau et ce genre de choses, ce type d'initiative, peut-être que c'était bien intentionné, mais ça semble quand même un petit peu cynique, on va dire.
Ouais, et même, je vais te dire un truc. Est-ce que si tu en empiles 5000, ça crée un cluster de travailleurs qui, en fait, est la nouvelle intelligence artificielle qui va traiter, tu sais, les mots-clés que Alexa ne reconnaît pas, et plutôt que de mettre des ordinateurs...
avec des vidéos
de
zen
silicone, c'est ça, de fait de silicone, en fait, on met des employés de chair et d'os, tu vois, qui vont écouter les requêtes et dire, alors ça, je corrige, c'était pas ça qu'il voulait dire.
Ah, malheureusement, ça existe déjà. Hein.
Mais bien sûr que ça existe, mais honnêtement, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui me fait rire, c'est rire jaune, hein, c'est de me dire qu'en fait, finalement, ces travailleurs-là qui font ce boulot d'intelligence artificielle qui n'est pas si artificielle que ça, en fait il suffit de les mettre dans ces boîtes là et de les empiler dans un entrepôt Amazon passer à l'étape
simple.
Supérieure là,
non mais là au lieu, mais, tu vois, au bout d'un moment quand ils auront toutes ces cabines installées, c'est ça, quand ils auront toutes ces cabines installées, ils vont changer le logiciel qu'il y a dessus et au lieu d'avoir des vidéos qui vous disent de respirer pendant une minute, il y aura, et au fait quand vous entendez ça, est-ce que vous comprenez
ça ou ça, ouais, c'est ça. Ou qu'est-ce que vous comprenez en entendant ça, ouais, c'est ça.
Bon, mais allez, le dernier sujet L'horreur. Dans cette série que je voulais évoquer, c'est un sujet un petit peu plus sérieux, qui est la décision de Facebook de ne plus supprimer immédiatement les messages sur sa plateforme qui promouvraient non, je ne sais plus parler français, qui ferait la promotion de l'idée que le virus du Covid-19 a été créé par l'homme. La raison à cette décision, c'est qu'il y a depuis quelques semaines des discussions sérieuses sur le fait qu'il y a eu dans, en fin 2019 deux médecins qui travaillaient près d'un laboratoire en Chine qui ont été hospitalisés avec des symptômes de, du Covid-19, de la Covid-19, avant l'irruption de la pandémie. Et alors, l'explication qui semble plus crédible, c'est que c'est dû au fait qu'ils avaient, ils étaient en train de travailler dessus pour l'étudier, mais c'est suffisamment, on va dire, il y a un point d'interrogation sur cette question qui est suffisamment important pour que, aux États-Unis, le Congrès soit en train de poser la question, et même le président Joe Biden est en train de poser la question d'identifier vraiment l'origine du virus. Donc ça, c'est une, un sujet dont on pourrait débattre, et je pense qu'il est facile de partir dans les conclusions faciles, justement. Mais la question que ça pose encore plus, on n'a pas de conclusion là-dessus. Le seul truc qu'on a, c'est que cette question qui était en fonction des éléments qu'on avait clairement du domaine de la conspiration et maintenant un petit peu moins certainement du domaine de la conspiration. Et alors, attention, hein, il est facile de se dire « Ah bah vous voyez, du coup, les conspirationnistes peuvent dire « Bah du coup, vous voyez, on avait raison. » Et c'est souvent le cas dans ce genre de situation où on fait une supputation un petit peu fantaisiste, et quand on en a 12 000, et ben au bout d'un moment, il y en a une qui finit par peut-être s'avérer moins fantaisiste que prévu. N'empêche pas qu'au moment où on fait cette supputation, ben elle est fantaisiste et on ne peut pas lui accorder un crédit, parce que si on lui accorde du crédit, on doit accorder du crédit à toutes ces supputations fantaisistes, et donc on ne peut plus réfléchir. Mais ce que je veux demander à notre panel, c'est plutôt un truc qui est corollaire à tout ça. Facebook a donc décidé de ne plus supprimer ces messages immédiatement. Du coup, je me demande, est-ce que ça ne veut pas dire que Facebook, par la décision de ne plus les supprimer, peut donner de la confirmation aux personnes qui défendent ces idées conspirationniste, ou plus ou moins conspirationniste, par le simple fait de dire « bon, bah, on ne va plus les supprimer », on va se dire maintenant « ah bah vous voyez, Facebook qui supprime les idées conspirationnistes ne supprime plus celle-là, donc c'est prouvé, c'est bien le cas ». Il y a quelque chose qui me, je sais pas, qui me travaille dans cette simple décision de Facebook qui du coup met un pouvoir immense, même pas dans la décision de Facebook, mais dans la décision de suppression de contenu de Facebook, mais dans la décision de ne plus supprimer de contenu par Facebook, même ça, ça a un impact. Je ne sais pas si je suis cohérent dans ma
mais réflexion. En fait, c'est quand même assez surprenant parce que Facebook, enfin Zuckerberg a toujours dit, moi, ce n'est pas moi qui décide ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Quand on fait du fact-checking, c'est des partenaires extérieurs qui font du fact-checking. On a une Cour suprême maintenant qui décide des grandes questions sur Trump et des choses comme ça. Et là, ça semble une décision un peu décidée par Facebook lui-même. Donc c'est vrai que ça peut prêter à confusion et ça, moi je trouve que ça décrédibilise totalement Facebook auprès de gens qui veulent le décrédibiliser. Si Facebook demain dit sur les élections américaines, on peut plus, je supprime les messages qui disent que les élections sont fausses, ben on peut lui dire mais pourquoi, enfin je veux dire, il n'y a plus de crédibilité s'ils ont changé d'avis sur ça en fait.
Oui, non, mais en fait, là, il y a eu une décision à la base. Il y a certaines informations depuis quelques mois déjà sur lesquelles ils ont décidé d'agir, pas préemptivement, mais oui, presque préemptivement, avant qu'il n'y ait de plainte sur ces sujets. Et oui, donc ils ne sont plus neutres.
En fait.
Hein. Bah, c'est effectivement, on peut se poser la question, mais l'alternative, c'est qu'ils laissent tout sans toucher à rien. Et du coup, on en arrive à des situations comme...
quand même un peu l'impression que depuis l'élection donc de Trump, donc en 2016, ils sont tombés un peu dans l'excès inverse. En 2016, Zuckerberg disait « Mais vous êtes complètement foutre, Facebook n'a eu aucun impact sur l'élection américaine. » Il avait complètement fermé cette porte. Et là, on a l'impression qu'ils sont totalement, ils sont très, comme tu dis, voilà, ils réagissent en amont, quitte à, ben voilà, à faire des confusions comme ça. Après, ça ne veut pas forcément remettre en cause tout ce qu'ils font en termes de modération, mais c'est vrai que ça peut donner des arguments à ceux qui contestent leur politique.
C'est ça qui est problématique, je crois, dans cette situation, c'est que ça donne des arguments. Bon, mais c'est peut-être pas la mauvaise décision malgré tout. Bon, enfin, voilà donc sur cette petite série de discussions sur ces sujets un peu compliqués. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour parler un instant de Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, évidemment. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission financièrement. Vous écoutez l'émission depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie, qu'on vous fait, comme je le disais en début d'émission, un petit peu rigoler, qu'on vous fait sourire au moins dans votre trajet monotone et peut-être morose quotidien. Ou peut-être que vous êtes en train de passer l'aspirateur ou de laver la vaisselle ou Dieu sait quoi d'autre, ou de faire de l'exercice, de faire du sport. Et on vous anime un petit peu ces moments. Et en plus de ça, on vous amène des sujets de réflexion et puis des analyses que j'espère intéressantes sur tous ces sujets si importants, puisque comme je le dis depuis des années, ils composent vraiment tous les éléments de notre société, de notre quotidien. Et on va continuer à le voir avec les sujets suivants. Et avec tout ça mis ensemble, j'espère que ça vous apporte une valeur, une certaine valeur à votre vie, que ça a un certain, que ça vous apporte quelque chose, et que si ça disparaissait demain, vous vous diriez, bon, je me doute bien que c'est pas la fin du monde, hein, mais que vous vous diriez, oh, c'est dommage, si demain, si la semaine prochaine, il n'y avait plus de rendez-vous tech, vous dites, à partir de la semaine prochaine, il n'y en a plus, vous dites, oh merde, bon, j'aimerais bien l'avoir quand même. Je ne suis pas en train de dire que vous vous effondrerez par terre en hurlant de douleur. Certains d'entre vous peut-être, mais pas tous. Mais peut-être quand même un petit peu, oh, c'est dommage. Et bien du coup, peut-être que c'est dommage, ça vaut un petit euro. Ça a une valeur en fait pour vous. Ouais, je voudrais bien lâcher un petit euro pour cette valeur-là que ça m'apporte. Bah, si c'est le cas, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission, et vous pouvez décider de contribuer à la production de l'émission à hauteur de 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez, vous pouvez choisir, et vous êtes débité uniquement à la fin du mois, en fonction du nombre d'épisodes qui a été publié, et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez, il n'y a aucun engagement, et en plus de ça, vous avez des bonus fort sympathiques, j'espère, des petits bonus en plus. Je viens de publier un édito ce matin, où je parle un petit peu de la manière dont le repos, entre guillemets, forcé, entre guillemets, que je vis depuis quelques semaines avec la naissance de ma fille, me force un petit peu à reconsidérer ce qui est important dans mon activité et pourquoi c'est important et pourquoi certaines choses qui pourraient paraître pas importantes sont, à mon sens, importantes tout de même. Donc, il y a un petit peu un aspect, on passe de l'autre côté du micro, puis il y a d'autres sujets de discussion que j'ai aussi, des petites analyses, et puis d'autres bonus également, le fait qu'il y ait l'émission sans pub est un bonus important aussi. Bref, tout ça pour dire que, entre la valeur que ça vous apporte, le plaisir de devenir contributeur et de vous dire que vous êtes actif dans cette démarche, et puis les bonus que vous avez, peut-être que ça vous intéressera. Si c'est le cas, patreon.com/rdvtech, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez, en arrivant à la maison, quand vous mettez les bols les clés dans le bol, vous dites cling, ah, et là, je pense à Patrick. Soit vous êtes contributeur, et là, vous avez un sentiment de bien-être, une chaleur qui vous envahit, soit vous n'êtes pas encore contributeur, et là, vous dites, ah, je vais aller sur patreon.com/rdvtech. Encore une fois, le lien est dans les notes de l'émission, et merci à tous ceux qui sont déjà contributeurs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On continue avec un petit mot un petit message très rapide que nous a donné Satya Nadella, qui nous dit qu'il va y avoir de gros changements à venir dans la prochaine version de Windows, la prochaine génération de Windows, et qu'ils vont en annoncer très bientôt. Ça aura peut-être à voir avec des changements d'interface dont on a vu certains indices ces dernières semaines. Peut-être un nouveau store qui est extrêmement important. Le store, on le sait, dans les OS d'aujourd'hui et d'autres choses de ce type-là. Je note aussi que la prochaine version de Windows aura également une possibilité de faire tourner les applications Linux en version graphique, enfin les GUI de Linux, les apps qui utilisent l'interface graphique de Linux pourront tourner sous Windows, ce qui est quand même assez important. Et on parlera dans l'after show aujourd'hui. Prenez des notes si vous êtes dans l'assistance pour l'after show. On va essayer de parler de ce qu'on attend des prochains OS, que ça soit Windows ou macOS ou même iOS, ce qu'on voudrait les voir faire. Et peut-être une discussion connexe intéressante, c'est est-ce qu'on en attend quoi que ce soit finalement ? Est-ce qu'ils sont commoditisé à tel point qu'on n'en attend plus rien. Donc ça, ça sera dans l'after show pour les gens qui sont patriotes. Mais encore plus important, qu'est-ce que dit Satya Nadella avec cet indice d'annonce importante pour la prochaine génération de Windows ? On sait que Windows 10 X, qui avait été en développement pour les outils comme la Surface Neo, n'est plus désormais en développement. Et que les enseignements, entre guillemets, de Windows 10 X vont être intégrés à Windows tout court. Il y a quand même beaucoup de questions parce que Windows reste un OS extrêmement important dans le monde. Évidemment, il est sur la majorité des appareils, des ordinateurs que nous utilisons. Et Cédric, qui est un petit peu un amateur de Windows et un spécialiste de Windows... bon, en tout cas, à une certaine époque, on dira.
Oui, à une certaine époque. Non, non, mais j'utilise toujours Windows tous les jours et je m'arrache les cheveux.
C'est vrai, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien, Windows.
Non, je plaisante. Il fonctionne... Non, mais après, j'ai des besoins très spécifiques, moi, tu sais, d'accord. De stream, de machin, et du coup, de temps en temps, avec des mises à jour, j'ai droit à des bugs de l'espace. Mais
alors, pour une refonte, c'est vrai que Windows 10, il est sorti quand ? En 2018, peut-être ? Quelque chose comme ça ?
Ouais, il mériterait une petite...
Qu'est-ce que tu attendrais, en fait ? Ouais. De cette...
Bon, peut-être effectivement une petite modernisation graphique. Il y a toujours encore des icônes héritées, des versions précédentes de Windows. Ça manque toujours de consistance dans les réglages, dans les paramètres et tout. Je pense qu'il y a une petite simplification qui s'impose et je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs Windows sont suffisamment matures pour comprendre qu'il faut une simplification du paramétrage, etc. La grosse critique que font souvent les utilisateurs Windows vis-à-vis des utilisateurs macOS, c'est très clairement l'idée que sous macOS, on ne peut rien régler, que tout est verrouillé, alors que sous Windows, je fais ce que je veux, je le personnalise à l'infini. Dans les faits, c'est faux, dans les deux cas. Mais je crois sincèrement qu'en termes d'expérience utilisateur globale, Windows mérite une petite refonte. Quoi.
Ce que tu es en train de dire, oula, je tape sur mon micro, ce que tu es en train de dire, oui, tu parles de graphisme, mais c'est vrai qu'en sous-texte, tu es en train de dire peut-être qu'il faut que Windows se macOSise un petit peu et du coup, s'iOSise un petit peu parce qu'il y a eu une
Oui, clairement.
Ouais, c'est ce que tu dis, ouais.
On est plus trop dans le marché. Enfin, le marché a beaucoup changé. Windows, fatalement, est devenu un produit de consommation et utilisé par énormément d'utilisateurs. Et pour moi, ça nécessite une simplification. Enfin, je veux dire, et les gens commencent à être aussi utilisateurs plus ou moins avertis. Mais regarde le move d'Android. Android est en train vraiment de se simplifier. Android 12, l'interface. Mmh. C'est clairement simplifié, il y a beaucoup plus de consistance, les réglages sont rangés de façon logique, etc. Moi, je crois surtout que la grosse évolution va venir effectivement d'une petite modif d'interface. On va dire que c'est la partie cosmétique et expérience utilisateur, mais il va y avoir une modification de fond. Et la modification de fond, elle va être le changement d'architecture. C'est la suite logique de l'histoire. Apple l'a montré le chemin avec son M1, mais quand Microsoft propose un kit de développement qui ressemble d'ailleurs à un Mac Mini, au kit de développement qu'avait fait Apple, sous Snapdragon 7C. Alors, il est complètement anémique et pas du tout puissant. Mais l'objectif...
Tu parles de cette machine de développement qu'il développe avec... Voilà.
Avec Snapdragon...
Ouais. C'est Qualcomm ?
C'est Qualcomm.
Oui,
ouais, c'est ça.
Avec Qualcomm et avec un Snapdragon 7C. Une machine de développement sous ARM, sous Windows, pour encourager les gens à développer sous ARM. Ouais.
C'est exactement ça. Alors, en fait, ils les encouragent pour deux raisons. Ils ont déjà un ordinateur dans leur gamme, hein, Microsoft. Ça s'appelle le Surface Pro X. Qui est pas mal. Le problème, c'est que pour développer, si tu te dis, moi, je crois vraiment à la technologie ARM et je veux vraiment développer des applications, ça veut dire qu'il faut que j'investisse 1000 euros dans un device pour tester mes apps. C'est une barrière de prix qui, pour des développeurs indépendants, peut représenter une certaine somme. L'idée d'avoir un kit de développement vendu 300, 400 ou 500 euros, on n'a pas encore le prix, sur lequel tu branches ton clavier, ta souris, et tu testes tes applis dessus, et tu pousses la communauté de dev à utiliser cette techno-là, eh ben, c'est le move qu'a fait Apple, et c'est, je pense, celui sur lequel compte aussi Microsoft, en fait.
Et puis, c'est une indication que, maintenant, ARM constitue un élément important de l'écosystème Windows. Il y a deux choses...
Franchement, à part pour les gens qui jouent... Attends, dernière chose, à part pour les gens qui jouent, et encore, ça viendra peut-être plus tard. Peut-être qu'on aura des configurations incroyables d'un processeur ARM et d'une carte graphique Nvidia. Hein. C'est tout à fait possible. Mais dans un premier temps, pour 99%, regarde le nombre d'ordinateurs portables vendus sans GPU, enfin ou avec le GPU Intel intégré. Un processeur ARM ferait largement la même chose avec plus d'autonomie, etc. Je pense que sincèrement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est la révolution informatique dans le sens très peu de consommation, grosse autonomie et tout ça. C'est la majorité des PC vendus. C'est la majorité des PC vendus.
Moi, je suis pas convaincu que cette nouvelle version de Windows aille dans ce sens-là, parce que en fait, les briques sont déjà en place maintenant pour que ça puisse fonctionner. Mais peut-être, il est possible qu'il y ait des. En fait, ce que tu dis, c'est que le fait de s'orienter vers plus de simplification, de commoditisation de l'interface est un élément de plus qui permet cette direction que prend Microsoft. Il y a deux choses que je vais noter par rapport à ce qu'on nous dit dans la chatroom. D'une part, Kazadov qui nous confirme que Windows 10 est sorti en juillet 2015. Vous voyez, je disais 2017. Le temps passe, on va dire les choses comme ça. C'est Dean Twee qui disait « Je comprends pas bien ce qui va changer, j'utilise absolument pas le store, peut-être à tort. » Et pour moi, ça, c'est un élément hyper important de la réflexion, c'est que les utilisateurs de Windows n'utilisent pas le Windows Store. Et ça, c'est un problème.
Ouais, et ça vient de l'expérience globale qui n'est pas réussie, en fait.
Et le store est un symptôme de l'expérience globale générale de Windows qui n'est pas forcément très user-friendly. Mais le store est clairement très problématique et beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Alors que finalement, il est extrêmement pratique d'avoir un store dans ton OS. Si tu n'es pas obligé de l'utiliser, ça n'a que des avantages. Mais pourtant, très peu de gens utilisent le store Windows. Il est très possible que les modifications aillent... soit relative au store lui-même. Je demande, Jérôme, du coup, si tu as aussi...
Non, moi, sur le store, je me demande, est-ce que le fait que les gens n'utilisent pas le store, est-ce que c'est parce que le store n'est pas bien ou c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, sur un PC moi, je n'ai jamais utilisé le Windows Store, je vais directement télécharger le programme que je veux sur le site, le bon site, quoi. Je n'ai pas le réflexe, en fait, pas comme sur un téléphone où tu n'as pas le choix. Là, sur un PC, moi, j'utilise Chrome pour aller chercher mon logiciel que je veux. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça. Alors, est-ce que c'est mal expliqué ?
C'est vrai que sur macOS, où le store fonctionne très bien, je pense que beaucoup de gens ont encore le réflexe d'aller télécharger leur logiciel. Mais bon, je pense que c'est difficile pour Microsoft de voir ça et de ne pas penser que c'est une opportunité manquée en même temps. Mais je me trompe peut-être.
Bien entendu, parce que après il faut voir. Alors, je ne connais pas leur politique de commission sur le Windows Store, mais l'idée aussi c'est que si on passe par un store, il y a des commissions derrière. Ils peuvent vendre de la pub aussi s'ils font. Donc il y a un peu pour récupérer de la valeur en fait qui leur échappe finalement sur quand on passe par un navigateur ou pas. Je vois qu'on parle de Steam ou pas quand on passe sur Steam, la valeur échappe à Microsoft. Donc on essaie de la récupérer, comme ça.
Oui, effectivement. Bon, donc ça, c'était Windows. Je vais également couvrir d'autres petites news, évidemment, avec, par exemple, cette... Oula, je me perds dans mes fenêtres. Ce petit sujet que j'ai trouvé intéressant sur les QR codes pour Stop Covid. Vous savez qu'on va désormais utiliser des QR codes pour se localiser quand on rentre dans un lieu clos, enfin un restaurant notamment. Et on pourrait se poser la question de savoir si c'est effectivement anonyme. Et c'est intéressant parce que le procédé utilisé par ce système est assez proche de ce que suggéraient à la base les applications de traçage ou le protocole de traçage développé par Apple et Google au début de la pandémie. Et en fait, là, ce système, si je ne me trompe pas, hein, mais je crois que je l'ai bien compris, utilise en fait un petit peu le même système. C'est-à-dire que le QR code inclut un identifiant unique mais anonymisé, qui est relatif au lieu en question. Et quand vous le scannez, c'est une suite de, je ne sais pas, peut-être 25 chiffres et lettres, ou même plus, et vous l'enregistrez dans votre application Stop Covid, mais ça reste en local. Et vous y associez la date et l'heure de cet enregistrement. Donc en gros, l'application sur votre téléphone sait que vous avez été à cet identifiant, dont on ne sait même pas quel est, si c'est un lieu, enfin quel, de quel lieu il s'agit, et le restaurant, bien sûr, n'a aucune information sur vous. Si jamais, donc tout le monde, tous ceux qui scannent le QR code ont cette information pour chaque restaurant où ils ont été, où ils ont scanné le QR code. Ces informations sont gardées 2 semaines. Si dans les 2 semaines, l'application, vous vous déclarez dans l'application comme ayant été positif au Covid, ça remonte au serveur de l'État, et l'État fait redescendre la liste de tous les identifiants en question avec l'horaire, on va dire sur une plage de 2 heures de la personne qui a été présente aussi, et tous ceux qui auront ce même identifiant avec un horaire correspondant dans leur téléphone seront notifiés pour dire bah, vous avez eu une personne ou 3 ou 4 personnes qui étaient positives au Covid quand vous étiez dans cet établissement. Donc, allez vous faire tester et, bon, la suite, on la comprend. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment un système qui est, a priori, anonyme. Il y a une petite action du serveur, mais s'il y a un léger archivage des données pour une question de traçage, ça reste minime. Et c'est un système qui est, a priori, assez bien fait pour être respectueux, efficace et respectueux des données privées. Donc, voilà pour le petit topo sur ça. Un autre sujet qui est le fait de pouvoir désormais cacher les mentions like et le nombre de likes sur Instagram. C'est-à-dire qu'on peut choisir soit par défaut, soit par photo par photo, de cacher le nombre de likes, soit parce qu'on ne veut pas les voir et on cache le nombre de likes sur toutes les photos qu'on regarde, mais plus important, les créateurs des photos en question peuvent cacher le nombre de likes sur leurs photos, l'idée étant de réduire la pression sociale d'avoir beaucoup de likes. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, si vous êtes stressé quand vous n'avez pas de likes sur une photo que vous avez postée sur Instagram. Jérôme, toi, tu consultes ton application toutes les 10 minutes. Je rigole, mais c'est pas vraiment... le problème n'est pas vraiment drôle. C'est un problème qui est sérieux. Je ne sais pas si la solution est efficace, mais le problème est sérieux.
Parce que je pense, ben moi aussi j'ai le même doute que toi, je me demande est-ce que aussi on poste pas sur les réseaux sociaux pour avoir les likes aussi. Donc si on les cache de manière automatique, est-ce qu'on va toujours poster? Je n'ai pas d'idée sur ça.
Ah non, mais c'est une question importante. Est-ce qu'on poste pas pour les likes? C'est pas la motivation, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Cédric, toi tu postes pour les likes ou tu postes pour le plaisir?
En fait, je t'avoue que mon usage des réseaux sociaux a beaucoup changé.
Tu as grandi, tu es devenu plus mature.
Ouais, pour te dire, j'avais supprimé mon compte Instagram. Puis je l'ai recréé avec un autre nom. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de monde qui me suivent. Je poste très peu.
Ah, donc tu as changé ton utilisation du réseau pour, pour réduire la pression, je sais pas. Mais...
Alors, c'est pas pour réduire la pression. C'est... Bon, je recevais des messages pas très cool. Limite insultant et ça m'a un peu fatigué. Donc du coup j'ai quitté le réseau et puis accessoirement je le trouvais tellement artificiel, les publications proposées, tout ça, que ça m'intéressait plus trop. Je comprends l'idée de masquer et je pense que tu vois par exemple moi je le ferais masquer le nombre de likes, de commentaires. Alors déjà j'en ai pas beaucoup et en fait je m'en fous. Et je fais pas cette course-là. Par contre, quand on est peut-être un influenceur ou quelqu'un qui veut essayer de peser dans ce truc-là, ça peut toujours être pas mal de peut-être commencer par masquer tant qu'on n'arrive pas à un chiffre critique, tu vois. Je peux comprendre la démarche. En fait, je trouve que cette démarche, elle est plutôt liée à la marchandisation de son contenu plutôt qu'au bien-être, en fait. Je ne suis pas certain que ça soit une opération de well-being, tu vois.
Mais en fait, pour les gens qui ont beaucoup de likes, au final, ça a peu d'importance, je crois. Ou peut-être que...
Non, parce que quand tu es un sponsor, que tu passes dessus, tu vois, tu...
Ah, mais quand tu es un sponsor, ils vont vouloir les chiffres. Et tu les as quand même dans ton back-end si tu as un compte business. Et donc, je ne sais pas si ça change les choses.
Mais en même temps, tu vois, quand il y a un espèce de concours, mine de rien. Je sais que nous, entre podcasteurs, on ne se fait pas la guerre, tu vois. Mais peut-être qu'entre influenceurs mode sur une thématique ou sur un truc en particulier, t'as envie d'être le premier influenceur fitness de France, tu vois, et pas le deuxième.
Ouais.
Parce qu'il y a cet aspect un peu compétition aussi, tu vois. Et peut-être, le fait de l'afficher, tu vois, il y a cette idée aussi du monde qui attire le monde et se dire, bah lui, il est meilleur, regarde le nombre de followers qu'il a, regarde le nombre de likes qu'il a.
Et donc, tu sais pas, tu sais pas, ouais, peut-être.
Et si tu sais pas, tu sais pas, et voilà, bon.
D'accord.
Je pense que ouais, c'est clairement une histoire plutôt qui tourne autour de la marchandisation plutôt que le well-being, en nous vend ça un peu comme c'est pour le bien-être aussi des utilisateurs. Finalement, on n'a pas la pression du chiffre. Mais du coup, qui dit pression du chiffre en général, c'est parce que on est dans la compétition et on cherche quelque chose.
Je sais pas. Donc, je crois qu'il y a aussi pour les gens entre guillemets normaux cette pression qui peut se arriver différente, mais.
Même pour les ados, juste pour les ados.
Ouais, c'est ça.
Un ado qui a une photo qui est aimée par 3 personnes et c'est moi je suis plus ado hein, mais j'imagine que au lycée, si ta photo personne l'aime et qu'à côté il y a une fille ou un gars où il y a 50 personnes qui aiment la photo, j'imagine que tu te sens pas forcément autant aimé. Alors,
Mais si vous voulez être vraiment dans une démarche de well-being, moi ce que je ferais si j'étais Instagram, je ferai la chose suivante, c'est-à-dire que le nombre de likes, de commentaires, etc. est masqué par défaut tant que tu n'as pas atteint, par exemple, 10 000 followers sur la plateforme ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'avant, ça n'a que peu d'intérêt, en fait.
Peut-être,
sauf te mettre une espèce de pression malsaine, conduire à des dérives, tu vois, enfin voilà. Finalement, comme faisait à l'époque YouTube...
Ouais, mais on retombe sur le problème que certaines personnes utilisent Instagram pour avoir les likes aussi. Donc,
ils
n'ont pas 10 000 abonnés. Donc, ils perdraient, à mon avis, ils perdraient des abonnés, quoi. Ils perdraient des utilisateurs.
Ou peut-être, aller à l'inverse, par défaut, faire en sorte que ça ne s'affiche pas et qu'il faille les afficher. Mais du coup, ça serait un petit peu bomber le torse, genre, regardez, moi j'ai des likes parce que j'ai activé l'affichage. Bon, c'est pas un problème facile. Un autre problème compliqué est celui, la proposition de certains députés de dire que c'est un amendement qui a été proposé, qui est dans le cadre d'une loi qui veut réguler la gestion de certains équipements, qui dit que, donc cet amendement dit que, au-delà du délai légal de garantie, il faudrait pouvoir faire ce qu'on veut d'un appareil, en quelque sorte. C'est-à-dire que une fois que votre iPhone ou que votre Android n'est plus couvert par la garantie légale, eh bien, vous n'avez plus de restrictions sur l'utilisation. Donc, le fait, en fait, de pouvoir installer des applications tierces facilement, etc., etc. Je comprends pourquoi cette idée peut être séduisante, mais en fait, ça mélange pour moi deux problématiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, l'idée que les garanties... la problématique des appareils qui ne sont pas utilisables librement est très compliquée, très complexe. Il y a des bonnes raisons, même si certains ne veulent pas le croire, il y a de bonnes raisons de ne pas laisser la main libre à tout le monde sur les appareils qu'on utilise. Et d'un autre côté, attacher ça à la question de la garantie légale, c'est un peu facile. On se dit, du coup, si le truc est plus garanti, on devrait pouvoir en faire ce qu'on en veut, puisque le constructeur n'a plus d'obligation là-dessus. Mais pour moi, c'est mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Si on détermine qu'il faut que, immédiatement ou au bout d'un moment, on puisse faire ce qu'on veut de son appareil... Eh bien, très bien, il faudra déterminer ça, mais l'attacher à la question de la garantie fausse ce débat, parce que la question se pose de manière sérieuse et compliquée en dehors de la question de la garantie. Donc voilà, c'était un petit commentaire que je voulais faire là-dessus. Donc
après, je pense que juste pour deux secondes.
Vas-y.
Je pense que l'histoire de la garantie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple d'un iPhone. Si demain on dit, ben, tout le monde peut jailbreaker un iPhone sans problème, Apple va dire, ben attendez, non, si tu, il y a plus de chances que votre iPhone ne marche plus parce que vous n'êtes pas sur iOS. Pourquoi nous, on garantirait ça? Et en fait, aujourd'hui, quand tu jailbreak un iPhone, tu n'as plus de garantie, si je ne dis pas de bêtises.
Bien sûr, tout à fait.
Donc, je pense que c'est plus une question légale, en fait, une question de, juridique, de se protéger face à des recours qui pourraient dire, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de garantie parce que vous n'utilisez pas l'appareil comme il est censé être utilisé.
Mmh. Oui, non, mais je comprends la... Oui, effectivement, je comprends l'idée. Mais il n'empêche que pour moi, c'est tout de même le fait d'autoriser la manipulation comme on le souhaite, enfin, de la forcer, en fait, pose tellement plus de problèmes que ça fausse le débat de l'attacher à la question de la garantie, même s'il y a une filiation. Je comprends ton explication, il y a effectivement une filiation entre les deux. Bon, on va couvrir quelques sujets un petit peu plus rapidement. On a déjà parlé de Microsoft et Qualcomm, mais je voulais aussi vous signaler que WhatsApp a changé d'avis, en fait. Ils ne vont plus limiter les fonctionnalités de votre application si vous n'acceptez pas leurs nouvelles conditions d'utilisation qui ont à voir avec le fait de faire sauter le chiffrement de vos messages avec des marques avec lesquelles vous communiquez pour différentes raisons. Mais la question qu'on évoquait il y a quelques semaines, c'était que WhatsApp forçait les gens à accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Sinon, il dégradait l'utilisation. En gros, il rendait l'app inutilisable. Moi, je défendais un petit peu l'idée que ce n'était pas si incompréhensible que ça. Mais en tout cas, maintenant, plus de problème, parce qu'on pourra continuer à utiliser WhatsApp, même si on n'accepte pas les nouvelles conditions d'utilisation. De leur côté, ils continueront à vous rappeler qu'il serait une bonne idée d'accepter ces nouvelles conditions d'utilisation. Ceci dit, je pense que beaucoup de gens les ont déjà acceptées. Donc, ça ne change plus grand-chose, peut-être.
Ils ont dit. Hein.
Ouais,
ils ont dit
exactement.
Hier.
Et puis, à vrai dire, si on est à ce point attaché à ce genre de choses, je pense que c'est plus WhatsApp qu'on utilise. Google a lancé Fuchsia OS. Et là, vous vous dites, mais mon Dieu, Fuchsia, je m'en souviens, on en parle depuis des années. C'est cet OS qu'il développe en parallèle d'Android qui va peut-être être amené à complètement transformer la présence de Google sur le marché des systèmes d'exploitation. Et maintenant, il le lance enfin. Mon Dieu, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tempérez votre enthousiasme, chers amis. C'est uniquement pour les Nest Hubs. Vous savez ce que c'est, les Nest Hubs ? C'est leurs outils d'informatique, de domotique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et en fait, ça va remplacer l'OS existant, qui était un OS un petit peu obscur, qui s'appelait Cast OS, et qui ne va changer rien des fonctionnalités de l'appareil. En gros, ça sera complètement transparent. On remplace CastOS par Fuchsia OS, en notant tout de même que c'est quelque chose qui est peut-être une première étape dans un développement plus important de Fuchsia OS, mais qui est tout de même, je pense, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu décevant quand même pour le lancement de Fuchsia OS. Je suis sûr que Cédric, par exemple, avait des fantasmes d'un OS moderne repensé pour Fuchsia sur peut-être les téléphones mobiles ou d'autres appareils. Bon, là, c'est décevant. Donc.
Ouais, c'est un peu... Ça fait pchit, quoi, un peu.
Ouais. Mais c'est que le début,
on n'est pas à ça. Ouais, c'est que le début. Après, tu commences par ces appareils-là et rien ne t'empêche ensuite de le déployer à côté. Mais oui. J'avoue que la stratégie logicielle de Google ces derniers temps est assez difficile à suivre, que ce soit par exemple sur même leur nouveau matériel U, leurs nouvelles interfaces qui sont disponibles que pour les pixels. C'est la première fois que la version vanilla, en gros la version pure d'Android, dispose d'une interface qui n'est pas la même que... Enfin, pour les pixels en tout cas, qui n'est pas la même qu'Android classique. Enfin, je trouve ça étonnant. Je trouve surprenant le rapprochement avec Samsung sur l'OS des montres, en fait. Est-ce que Wear OS sera toujours Wear OS ? Est-ce que Wear OS sera un mélange avec Tizen ? Enfin, la stratégie logicielle, en fait, est extrêmement complexe à suivre. Après, si ça fonctionne, tant mieux. Mais on s'attendait plus à une uniformisation, comme ils avaient tendance à nous diriger vers ça, Google, ces derniers temps, en demandant aux constructeurs de respecter un cahier des charges pour bénéficier des services Google, etc. Et là, finalement, on se retrouve à... Ben, même chez eux-mêmes, en fait, il y a des surcouches logicielles qui sont différentes, etc. Enfin, mmh. C'est un peu complexe. Un peu surprenant, ouais.
Jérôme, ouais. tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, moi, sur Wear OS, moi, au contraire, je trouve que ça fait totalement sens de s'associer avec Samsung. Wear OS, ça fait des années qu'ils ne développent plus, que tout le monde l'abandonne petit à petit. Mais ils se sont dit, ben, on va avoir le meilleur... Non, Apple, c'est Samsung. On va intégrer des fonctionnalités de Tizen qui est plus avancé que nous. On va intégrer des fonctionnalités de Fitbit qu'ils ont racheté.
Oui.
Ouais. Non, c'est Fitbit.
Ah non, sur Wear OS, je pense qu'on est d'accord. Fitbit. Oui, c'est bien Fitbit. Ouais.
Ah non, mais on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on est loin de l'unification logicielle entendue par un prochain Fuchsia OS ou Android Everywhere.
C'est un double en fait.
Oui,
je pense que ça se fait parce que. En fait, on se rend compte que ça ne marche pas, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Et que quand on a essayé de faire du Chrome OS sur une tablette, ça n'a pas marché. Faire de l'iOS sur un Mac, ça marche. Enfin, je trouve qu'il y a peut-être des utilisations qui sont différentes et que ça ne se justifie pas. C'est peut-être un beau rêve. Sur le papier, ça a l'air très beau. Peut-être qu'en réalité, en fait, ça ne marche pas tant que ça, quoi.
Peut-être.
Oui.
Tout à fait, je pense qu'on est effectivement dans cette... Enfin, on verra, hein, ça se trouve, ils vont nous surprendre, ils font les choses petit à petit, ils vont amener Fuchsia partout, on ne sait pas.
Oui, c'est ça, ils commencent peut-être par cet appareil, et puis plus tard...
Puisqu'on parle justement d'appareils portés, d'informatique portée, il y a un article intéressant du blog Above Avalon qui parle d'Apple et de la... C'est Neil Seibert, hein, je vérifiais, oui, c'est bien lui. Qui parle de l'avance qu'a Apple dans le domaine de l'informatique portée, et des watches spécifiquement, des montres intelligentes. Et il y a toute une discussion très intéressante sur le sujet qui parle, comme toujours avec Apple, de matériel, de logiciel, de services et d'intégration de tous ces éléments. Mais une chose qui m'a frappé, c'est la mise en avant de l'assistive touch sur Apple Watch que je n'avais pas vu passer et qui est assez surprenant. On a vu beaucoup de sociétés de la tech montrer comme on peut, avec des mouvements de main, contrôler des interfaces informatiques. Et c'était généralement du domaine de la recherche. Et là, Apple nous a sorti très discrètement une interface, alors qui est plus simple peut-être que ce qu'on voit dans ces démos impressionnantes de contrôle par le mouvement des mains, par la pensée en quelque sorte, mais qui fonctionne, qui est faite de... alors, pour être clair, c'est pour les personnes qui sont handicapées, qui peuvent avoir un usage limité d'une de leurs deux mains et qui ont du coup la possibilité de contrôler leur Apple Watch avec une seule main, la main sur laquelle est cette watch. Alors, comment ça fonctionne, c'est une série de mouvements qui sont composés du fait de fermer le poing, donc il y a, c'est l'équivalent soit d'un clic, soit d'un contrôle, etc., ou de fermer le pouce, de toucher le pouce et l'index, donc de faire une sorte de pinch, donc, et de secouer la main et d'orienter la main pour contrôler en fait par mouvement grâce à l'accéléromètre de la montre une sorte de pointeur sur la montre qui va vous permettre de passer sur différents éléments d'interface. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont implémenté cette manipulation, cette méthode de contrôle de la watch de manière assez discrète, mais ça fonctionne assez bien et on peut le contrôler en faisant des mouvements musculaires qui sont reconnus par la montre. Il y a sans doute de l'intelligence artificielle là-dedans, du deep learning, etc. Mais j'ai trouvé ça assez frappant que ça soit d'une part encore une initiative d'Apple qui essaye de pousser l'assistance aux personnes en situation de handicap sans doute plus loin que ne le font leurs concurrents. C'est le cas déjà sur l'iPhone, c'est maintenant encore plus le cas sur la Watch. Et puis simplement le fait de voir cette technologie qui est assez impressionnant, parce que c'est peut-être simple effectivement par rapport à d'autres démos, mais ça existe et c'est maintenant vraiment utilisable par les utilisateurs. Donc je voulais le mentionner et le noter. On va conclure avec une petite, c'est même pas vraiment une étude, mais il y a un article ou plutôt une note de service, de la sous-direction antiterroriste, la SDAT, qui parle de... Alors, on aurait pu parler de la question de la pourriture sur le net, qui parle de la présence de l'ultra-droite sur les sites web et de la manière... Alors, pour être clair, l'ultra-droite, c'est ce que la SDAT, définit comme la droite violente. Donc, il y a vraiment une question de violence et de menace physique, enfin, de menace de violence réelle. Et il parle des relais de ces groupuscules qui sont... D'une part, des sites de personnalités controversées ou de Vie Contact, le Facebook russe qui est aux mains de du gouvernement russe, ou d'autres sites de ce type, mais aussi, et c'est là que ça devient plus intéressant, de sites comme YouTube et les forums de jeuxvideo.com, dont je pense vous entendez souvent parler, alors YouTube évidemment, mais jeuxvideo.com aussi, souvent dans des contextes assez problématiques et controversés. Et là, il semble y avoir une source officielle qui indique à quel point c'est effectivement un problème réel et connu des services de surveillance et de police. Donc, il note qu'il y a effectivement des groupuscules actifs qui sont à la fois sur YouTube et sur les forums de jeuxvideo.com et qui vont recruter des gens, des jeunes souvent, pour les ramener vers des sources Internet, enfin des sources, des lieux sur le net qui sont peut-être plus explicites et plus... problématique. Et évidemment, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un petit peu sauter, même si on se doute bien qu'il y a ce type d'utilisation déjà. Il y a un tout petit bémol que je veux apporter et qui montre à quel point il faut vraiment lire les articles en entier avant de porter un jugement dessus, qui n'invalide évidemment pas les préoccupations qu'on peut avoir à la lecture de ces données initiales, mais qui met, on va dire, une petite dose de compréhension là-dedans. La chose qui est importante à noter aussi, c'est que le nombre de personnes qui appartiennent à ces groupuscules a en fait pas vraiment augmenté depuis une quinzaine d'années. La note des services de renseignement indique que en 2004, cette ultra-droite violente comptait environ 3000 personnes dans des groupes de skinheads, d'identitaires, de néo-nazis et de hooligans. C'était environ 3000 personnes sur le territoire. Aujourd'hui, on évalue à environ un millier de personnes et 2000 sympathisants, donc on va dire 3000 personnes aussi, en 2020, le nombre de personnes qui appartiennent à ce genre de groupe. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout négligeable, c'est extrêmement important, il faut le surveiller, et il est bon qu'il y ait des organismes qui aient l'œil dessus. Mais il est important de noter aussi, parce que quand on dit c'est YouTube et les forums de jeuxvideo.com, on imagine des dizaines, des centaines de milliers de personnes, selon leurs propres estimations. Ces groupuscules vraiment d'ultra-droite violente restent à des niveaux trop importants mais limités et stables depuis 15 ans. En tout cas, c'est ce que je pense comprendre de cette note. Donc, je voulais à la fois mettre l'accent sur, enfin, noter les informations données et puis cette petit élément qui vient en fin d'article.
Patrick, je pense qu'on peut dire que c'est choquant, mais pas surprenant.
Oui, c'est exactement ça. Et puis moi, je rajouterais aussi, c'est la faute des jeux vidéo, hein, parce qu'il y a jeuxvideo.com.
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, évidemment.
Est-ce qu'ils jouent à Call of Duty, histoire qu'on en rajoute, ou à jeux type PUBG, ou évidemment. FPS, militaire, voilà.
Tout à fait, tout à fait. Bah, ceci dit, c'est pas pour rajouter du... grain à moudre à ton moulin, mais je ne doute pas que ce type de personne soit friand de ces jeux-là, ce qui est...
Ah oui, oui.
Mais bon,
évidemment.
Dire ce que pour dire être certains. Un peu plus sérieux, oui. les forums de jeuxvideo.com, on le sait que c'est un vrai problème, que Webedia, qui détient jeuxvideo.com, ne fait rien vraiment pour changer les choses. Et souvent, dès qu'il y a une affaire d'harcèlement, il y a les forums de jeuxvideo.com qui sont dedans, quoi.
Évidemment. Donc, oui. On en a parlé plus d'une fois. C'est clairement un gros problème. Disons que si on parle de l'ultra-droite, c'est effectivement un problème. Mais le problème va beaucoup plus loin avec ces forums-là. Et quand tu parles de harcèlement, ils sont systématiquement dans le coup.
Oui. C'est problématique. Mais après, je ne suis pas certain que Webedia fasse rien. Hein. Je pense que Webedia ne met pas assez de moyens, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je pense que les modérateurs sont submergés et que... parce que quand on fait une demande de retrait, moi j'en ai fait une, c'est fait dans le moins de 24 heures. Hein. Donc on ne peut pas dire que Webedia fasse rien. Et je ne suis pas spécialement grand défenseur de Webedia, mais je pense qu'ils sont... Voilà, ils sont...
Non, mais à mon avis, la problématique est autre. La problématique est celle qui se pose à Facebook. Et peut-être qu'il y a une sorte de laxisme du côté de Webedia, c'est possible, j'en sais rien. Mais je ne me suis pas franchement penché sur ce problème spécifique, mais... Au-delà de ça, il y a la question de savoir ce qu'on va supprimer ou pas, qui est le problème qui se pose à Facebook, à YouTube, à Twitter, à tout le monde. Et je ne suis pas certain que Webedia ait plus la réponse que ces autres sociétés-là. Mais...
Oui, oui. Bon. Mais bon, après, jeuxvideo.com, c'est le plus grand espace de liberté en ligne en France, hein, faut dire ce qui est. Et français, je veux dire, plutôt, surtout. Parce que Facebook est un grand espace de liberté, Twitter aussi, mais... Mais du coup, il n'est pas étonnant de retrouver exactement les mêmes problématiques que sur les réseaux sociaux traditionnels. Et l'étude qui a été faite, là, j'ai presque envie de dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais,
Comme le diraient certains, je pense qu'on peut dire que c'est effectivement choquant, mais pas surprenant.
Mais pas surprenant, exactement.
Je note quand même la remarque de Dr. Valhall qui nous dit « il ne joue pas à Call of Duty ». Il joue... Ah pardon, c'est Draxas qui dit il joue pas à Call of Duty, il joue à Among Us, c'est pire.
Among Us, et ouais, c'est ça.
On a de quoi être inquiété s'il joue à Among Us. Bon, bah merci à tous les deux d'avoir participé à ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. Pour ceux qui sont dans le groupe des qui écoutent le podcast sur Patreon, enfin sur le flux privé disponible sur Patreon parce qu'ils sont contributeurs, on va avoir un after show où on va parler des prochains OS. Effectivement, sont-ils commoditisés? Est-ce que vous attendez quelque chose ou pas? Et pour les autres, bah écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine. Avant ça, un grand merci à Jérôme et Cédric. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va commencer avec Jérôme, où on peut te retrouver sur Internet? Est-ce que tu as une présence en ligne dont tu voudrais nous parler?
Oui, partout. Mais vous pouvez vous inscrire à ma newsletter cafetech.fr. Voilà.
Très bien.
Très bonne newsletter. Et puis sur Twitter, je ne suis pas trop sur Instagram, mais sur Twitter, Jérôme Marin SF, comme San Francisco, cafetech.fr. Voilà.
cafetech.fr et Jérôme Marin SF sur Twitter. On aura le lien vers ton compte Twitter, évidemment, dans les notes de l'émission. Cédric De Luca.
Yes. Si, Seigneur. Non, pas du tout. Alors, du coup, moi, on me retrouve sur les internets aussi. Je suis sur plein de chaînes Twitch, mais je vais en citer une. Pour une fois, je vais faire la promotion de la mienne. Donc, sur twitch.tv/CédricDeLuca, tout attaché. Pas de S à la fin de DeLuca, merci. Et sur Twitter, c'est toujours mon nom de jeune fille. Non, mon nom de naissance, comme on dit. @CédricBonnet. Mais vous verrez, il y a écrit DeLuca dessus parce que j'ai changé de nom et je me suis marié. Donc, voilà. Mais je n'ai pas changé le compte Twitter, le @.
Mais pourquoi donc?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est facilement faisable. Oui, après, le truc, c'est que mon compte Twitter est noté à peu près partout sur les internets.
Ah oui.
Plein de fois. Et du coup, si je le change, il n'y a pas de redirection. Alors, du coup, c'est un peu chiant.
C'est très facile à changer. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois.
C'est vrai? Oui, mais du coup, par exemple, si Patrick, sur un épisode précédent, a mis mon @CédricBonnet.
Si, c'est bon. Ça, si tu cliques sur la redirection, ça renverra. Ouais, normalement. Si je l'ai fait il y a quelques années, ça avait marché. Donc, je crois que.
Voilà, du coup, tout le monde va squatter mon ID Twitter.
Va le faire tout de suite. Voilà. Parce que là, tu prends.
Non, mais c'est déjà pris. En fait, c'est déjà pris.
Ah, zut. OK.
Donc, voilà.
Donc, ça répond à la question.
Voilà, du coup, je garderai mon nom de jeune fille. C'est tout.
Très bien. Donc, Cédric Bonnet sur Twitter. Merci beaucoup.
Et sur Twitch.
Twitch, évidemment. Cédric De Luca sur Twitch, juste là. Un grand merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. Vous avez les liens vers le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu et d'autres podcasts. Vous avez aussi les liens vers Patreon, mais le lien vers Patreon pour le Rendez-vous Tech, c'est très simple, il est déjà dans les notes de l'émission. Donc vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous voyez si vous voulez ou non contribuer à l'émission. C'est quelque chose de super simple, de super rapide, qui fait hyper plaisir. Non seulement à moi, bien sûr, parce que ça me permet de manger, mais également à vous, j'espère, parce que c'est une contrepartie à ce produit, à cette émission, à ce morceau d'amour que je vous envoie chaque semaine dans les oreilles. Donc, j'espère que ça vous incitera peut-être à aller sur patreon.com/rdvtech. Je vous fais de grosses bises à tous et on se retrouve dans l'after show pour ceux qui sont contributeurs sur Patreon. Ciao, ciao.